Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de la peste des petits ruminants. Vous savez, parmi les causes qui affectent qui tuent les chèvres, les maladies qui tuent les chèvres, lapins et autres ruminants, on cite la peste des petits ruminants. Cette affection entraîne la mort des bêtes lorsque la prise en charge médicale n'est pas rapidement assurée. Alors, quels sont les signes de cette maladie et comment la soigne-t-on et comment la prévenir? Comment prévenir cette peste des petits ruminants? Docteur Florent Gamouna, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin vétérinaire et épidémiologiste. C'est quoi la peste des petits ruminants?
C'est une maladie qui a été diagnostiquée pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, les années 42-44. C'est une maladie qui frappe les chèvres et les moutons. En Afrique, elle est plus vulnérable pour les moutons parce que sur les 4 souches de virus, il y en a 3 qui sont très vulnérables pour les chèvres et 1 est très vulnérable pour les moutons. Et cette maladie est observée en Afrique et en Asie essentiellement. Et en Afrique, les 3 souches déciment des quantités énormes de chèvres, pendant qu'en Asie, c'est la 4e souche qui est plus vulnérable pour les moutons qui est observée. Donc, en Asie, ce sont les moutons qui payent les frais, et en Afrique, c'est surtout les chèvres qui payent les frais. Et c'est une maladie qui est remarquée d'abord par une détresse des muqueuses. Ça commence par les yeux qui sont rougeoyants, et puis après, il y a larmoiement. Après les yeux, il y a un écoulement nasal qui est observé, et puis il y a l'attaque des muqueuses buccales, avec les érosions buccales et des plaies qu'on observe dans la bouche de la chèvre ou du mouton, qui empêchent à la longue à l'animal de s'alimenter normalement et de s'abreuver normalement. Et vers la fin de la maladie, l'animal devient très faible parce qu'il ne mange presque plus, et puis on observe une diarrhée qui vient assommer l'animal, et à la diarrhée, c'est succède la mort. Et on observe que la maladie frappe une grande quantité ou un cheptel important dans les villages ou à l'endroit où la maladie sévit, que ce soit les chèvres en Afrique et que ce soit les moutons en Asie. Donc une mortalité intense vient achever presque tous les troupeaux. On observe parfois le départ de tout un cheptel à l'endroit où sévit la maladie.
Voilà. Donc, vous avez dit au début qu'il y a 3 souches de cette maladie. 4 souches. 3 se manifestent en Afrique et 1 en Asie. Et quelles sont les souches qu'on retrouve ici chez nous?
Il y a les souches A, B, C, D. Les premières souches sont surtout observées en Afrique et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mortalité de chèvres. La 4e souche est observée surtout en Asie. Mais il est aussi en Afrique, c'est pour ça que les moutons payent les frais aussi en Afrique. Mais c'est surtout en Asie que les moutons payent les frais avec la 4e souche. Donc il y a moins de mortalité des chèvres en Asie que de moutons. Pendant qu'en Afrique, il y a plus de mortalité des chèvres que de moutons. Voilà.
Et comment différencier ces 3 souches de la peste des petits ruminants?
Eh bien ça, c'est le travail du laboratoire, c'est à isoler au laboratoire. Mais du point de vue clinique, c'est le fait que les chèvres périssent plus, donc on a plus affaire à ces 3 premières souches. Le fait que les moutons périssent plus, c'est la 4e souche qui est concernée.
Bien. Alors les signes, vous avez parlé des yeux rouges et larmoyants.
Et larmoyants, voilà.
Voilà. Les plaies à la bouche, et l'animal ne s'est pas brouté. Vous avez parlé d'une diarrhée, de la diarrhée, et puis qui finit par emporter la bête. Alors dans quelle partie du pays, en RDC aujourd'hui, on retrouve cette peste des petits ruminants?
Oui. en fait, il y a l'alerte très grave qui avait été donnée au Bandundu depuis les années 2012. Il y a eu une grande intervention dans cette partie du pays avec la FAO et un peu le gouvernement. Mais pour le moment, il y a des poches de résistance de la maladie dans les Bandundu. Et on observe aussi des poches de résistance à la maladie, surtout dans les Kasaï. Au moment où je parle, il y a une alerte très grave depuis le mois de décembre au Kasaï occidental, vers Luisa, Kazumba et tout ça. Il y a beaucoup de chèvres qui sont en train de crever vers ces milieux-là. Et on parle aussi des alertes vers les Kindu. Ce sont surtout les trois provinces qui sont très concernées par la maladie. À l'Équateur, il y avait le problème de la peste ruminant. Heureusement que le ministère de l'Agriculture, avec le projet PARSA, est intervenu en force. Il y a eu vaccination des chèvres et des moutons. Et pour le moment, il n'y a pas d'alerte à l'Équateur où la maladie avait commencé. Voilà.
Voilà, donc aujourd'hui, le foyer de la maladie, on peut le dire, reste la province du Bandundu et le Kasaï.
Le Bandundu et le Kasaï, et un peu le Kindu, et le Maniema.
Et un peu le Maniema. Alors docteur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, des agriculteurs qui ont enregistré des pertes énormes de leur cheptel suite à cette maladie l'année dernière par exemple? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan?
Bon, en fait, avec les vaccinations, on avait observé un recul de la maladie, mais les poches de résistance sont là. On a même dit que dans les Bandundu, il y avait près de 120 000 chèvres qui avaient péri.
120 000 chèvres.
120 000 chèvres.
Mais c'est énorme.
Les 500 recensés surtout dans le territoire de Massimanimba. Donc, quand on va vers le Kasaï oriental, Kasaï occidental pour le moment, on est en train de parler de près de 70 000 chèvres qui ont déjà péri sur un cheptel de 300 000 qui est recensé vers le territoire de Luisa. Donc, ça devient un peu assez grave. C'est une maladie qu'il faut prendre à cœur. Le problème, c'est que, en fait, la maladie a un vaccin. Le vaccin est là, donc il faut organiser des campagnes de vaccination. On ne sait pas lutter contre cette épidémie en dehors de la vaccination, parce que c'est une maladie qui n'a aucun traitement. Donc, pour le moment, il fallait qu'il y ait des mesures d'intervention en force pour la vaccination, telle que ça s'est fait dans l'Équateur. Et je pense que peut-être que le gouvernement est interpellé à ce niveau-là. Voilà.
Docteur, et pourquoi il n'y a pas jusque-là un traitement contre la peste des pétures imminents?
Vous savez, c'est une maladie virale. Le virus, c'est un microbe assez compliqué. La plupart des maladies virales n'ont pas de traitement. Le seul traitement pour les quelques maladies où on a pu découvrir les vaccins, il faut intervenir en force avec la vaccination.
Voilà, il faut intervenir en force avec la vaccination. Alors, mais on remarque certains, disons, agriculteurs ou éleveurs, dès qu'ils constatent que les bêtes décèdent de cette façon, bon, ils préfèrent rapidement dépecer la bête et aller vendre des morceaux de viande sur le marché. Est-ce que il n'y a pas des risques pour les consommateurs?
Oui. Le risque est énorme, justement. La propagation de la maladie se fait par contact. Et les humeurs, c'est-à-dire le sang, tout ce qui a été en contact avec l'animal. Donc, en fait, cette pratique-là, d'abord, de déplacer les animaux quand l'épidémie commence, dissémine la maladie. Et le fait de pouvoir dépecer l'animal et le vendre sur le marché, ce contact-là amène la dissémination de la maladie. Donc, en principe, il faut circonscrire la zone qui est atteinte. Et comme on l'a toujours dit, les animaux qui meurent des maladies ne sont pas consommables. Ça, c'est le principe d'or vétérinaire. Et nous ne reviendrons pas là-dessus. Il y a beaucoup de risques. Donc, tous ceux qui mangent des animaux malades ou qui mangent des animaux morts naturellement courent le risque d'être contaminés. Et je rappelle que nous sommes en face du virus. Le virus, c'est un microbe assez compliqué. Maintenant, il ne tue pas les hommes, il n'attaque pas les hommes. Mais c'était le cas avec la grippe aviaire. Maintenant, on déplore plusieurs souches de grippe aviaire qui sont en train décimé les hommes en Asie et un peu partout. Donc il faudrait comprendre que quand il y a la maladie, tous les animaux morts naturellement, tous les animaux malades déjà, ne peuvent pas être abattus et vendus. Non, il faut peut-être les enterrer ou les brûler. Ça serait une bonne chose. Voilà.
Parce que généralement, ces éleveurs se disent, mais on a beaucoup investi pour avoir ces bêtes. Aujourd'hui, toutes nos économies sont parties. Donc, vaut mieux vendre et récupérer un peu d'argent.
Écoutez, vendre et récupérer un peu d'argent, ce n'est pas la solution. Parce que là, vous êtes en train de disséminer la maladie. Donc, elle reviendra en boomerang, comme on dit. Donc, elle est partie, c'est bien, vous avez eu un peu d'argent, vous avez acheté des chèvres, mais là où vous avez vendu, là où ces chèvres sont parties, ça sera un foyer qui peut revenir sur vous. Donc, c'est pas la mesure épidémiologique. Pour nous, il faut nécessairement qu'il y ait circonscription de la zone et éviter les déplacements des animaux, des viandes déjà atteintes et essayer de pouvoir cantonner les virus à ce niveau-là. Arriver à pouvoir contrôler la maladie avec la vaccination. Mais attention, il faut comprendre que cette maladie, justement, confère une immunité à vie. Dès que l'animal guérit naturellement, elle a une immunité à vie. Et s'il n'y a pas l'immunité à vie, après le passage de la maladie, il faut simplement vacciner. Et on a une immunité de 3 ans pour les animaux vaccinés.
Bien, nous parlons de la peste des petits ruminants. Quelles sont les causes et remèdes de cette maladie qui décime les bêtes dans quelques provinces à travers le pays? Un auditeur en ligne est Sokoa, il nous appelle depuis Kindu, dans la province du Maniema. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Nous parlons aujourd'hui de la peste des petits ruminants. Et Sokoa, vous êtes à Kindu, Jean des Dieux, nous appelle des Kikuit. Et Sokoa, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour Judith, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ok, j'ai presque deux questions à poser à l'invité. La première question, pourquoi chaque année, dans la saison sèche, cette maladie se retrouve à des animaux? Parce que ici à Kindu, chaque année, à partir de décembre, il y a toute une perte, n'est-ce pas, donc, des animaux. Ça, c'est poules, des canards et d'autres poissons. C'est ça la première question. La deuxième question, est-ce que, pourquoi il n'y a pas aussi une vaccination, comme on fait en France, de respect, pour éviter cette maladie? Merci beaucoup. C'est ça,
on n'a pas bien saisi la deuxième question. Pouvez-vous la reprendre?
Ok, la deuxième question que je pose, c'est pourquoi il n'y a pas une vaccination pour éviter les maladies qui sont causées par des animaux?
Voilà, pourquoi il n'y a pas de vaccination? Merci. Okay. Jean des Dieux, vous êtes à Kikuit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, c'est notre invité.
Non, on vous écoute.
Merci beaucoup, j'ai des préoccupations, ma l'émission est très importante. Nous avons connu vraiment des pertes de bétail sur les chèvres, les moutons, parce que nous étions victimes de la peste dans notre province.
Oui.
Et je voulais demander pour des préoccupations à notre invité, là, donner tous les signes qui peuvent montrer que cet animal souffre de la peste. Maintenant, tous les signes sont déjà reconnus. Est-ce qu'il y a moyen de mettre toujours, parfois, en quarantaine des animaux affectés? Parce que ce sont des animaux déjà affectés qui sont en train de marcher encore pour aller contaminer d'autres personnes. Quelles sont les méthodes que nous pouvons faire pour éviter d'autres contaminations chez les animaux sains? Ma deuxième préoccupation par rapport au traitement des animaux. Parce qu'on a traité, à un moment donné, on a su que non, c'est terminé, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore des contaminations. Jusque même maintenant, il y a des animaux qui meurent. Parce qu'il y a encore un autre moyen par rapport maintenant à la prévention. Les traitements là, il faut, ça peut aller à combien de semaines pour que la maladie soit éradiquée directement. Merci beaucoup.
Bien, docteur Florent.
Ok, par rapport à la question qui vient de notre auditeur de Kingoula.
Oui, et ce qu'on a dit, il
fait,
dit que...
La saison où la maladie est remarquée, la saison sèche, selon lui, le problème, c'est les facteurs favorisants. Donc, en saison sèche, il y a beaucoup plus d'état de cette maladie, la crainte de la maladie, parce que, en fait, c'est un facteur favorisant, la saison sèche. C'est une maladie saisonnière, effectivement. Et là, il a raison. Alors, pourquoi il n'y a pas vaccination en masse de toutes ces maladies? Là, c'est le problème du gouvernement. Sous les échelons, il y a le gouvernement provincial. C'est quoi qu'il y a un ministre de l'agriculture à ce niveau-là. Il y a aussi le gouvernement central. Tout cela, c'est le problème des priorités du gouvernement. Moi, je ne suis qu'un un simple citoyen. Donc, c'est le gouvernement qui est interpellé à tous les niveaux. Alors, en ce qui concerne... la question
de la mise en quarantaine de bêtes affectées.
Oui, oui. Oui, le problème, c'est le dysfonctionnement des services vétérinaires. On ne le dira pas assez. Il y a parfois la démotivation des vétérinaires. Nous l'avons toujours dit que les services vétérinaires devraient être renforcés par la présence de l'ordre des médecins vétérinaires. Nous disions à cela... Ce n'est pas pour un simple luxe, mais il faut qu'on arrive à ordonner un peu la façon de travailler des vétérinaires en République démocratique du Congo. Il faut que l'ordre des médecins vétérinaires soit créé comme l'ordre des médecins pour réglementer beaucoup de choses. Et effectivement, il a raison, les quarantaines sont, disons, des dispositifs qui doivent freiner le mouvement des animaux. On ne déplace pas les animaux n'importe comment, il faut des documents d'origine de santé, et ça c'est le vétérinaire qui doit être habilité à signer cela. Mais il y a une démotivation et une façon de travailler qui n'est pas tout à fait normale, et aujourd'hui on observe qu'il y a des non-vétérinaires qui se disent vétérinaires, et tout cela passe de façon tout à fait notoire, parce que justement la profession vétérinaire n'est pas assez réglementée en République démocratique du Congo. Voilà.
Et voilà, avant de poursuivre, nous allons accueillir Albert de Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai une seule question à poser à notre invité.
Oui.
Oui. Quel mécanisme faut-il mettre en place pour faire face à ces genres de maladies? Comme il n'y a pas de vaccin, parce que ces derniers temps, nous avons suivi à Luisa, cette maladie fait problème vraiment et tue beaucoup, beaucoup d'animaux en fait. Alors, quel message que l'invité peut-il un peu lancer à l'endroit de nos autorités ou à ceux-là qui sont chargés pour les animaux afin qu'ils se retrouvent au moins à faire face à cette peste-là? Merci beaucoup.
Bien, merci. Revenons d'abord à la question des gens des dieux. Il dit la deuxième question, pourquoi il y a encore des poches de résistance? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème au niveau de la durée du traitement? Il voudrait savoir, le traitement doit durer combien de temps pour espérer éradiquer totalement la maladie, docteur Florent?
Oui, et par rapport aux poches de résistance, c'est quoi? C'est en fait le problème de la vaccination qui n'est pas bien faite. Il faut, après une vaccination, il faut une évaluation. Ce que nous avons fait dans la province de l'Équateur, où la vaccination contre la peste petit ruminant a merveilleusement bien réussi, parce que en fait, si il y a une évaluation, on sait savoir si les animaux ont été effectivement vaccinés et dans quelles conditions, parce que le vaccin là, c'est un vaccin qui demande une chaîne de froid très rigoureuse. Est-ce que la chaîne de froid a été respectée? On ne sait pas. Ça, c'est d'abord la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut savoir, quand il y a vaccination, les anticorps sont là pour 3 ans. Après 3 ans, il faut faire une vaccination de rappel. Ça, c'est le 1. Mais si les animaux guérissent naturellement, ils ont une immunité à vie. Donc, tout cela, ce sont des choses qu'il faut considérer. C'est pour cela qu'il faut un service vétérinaire qui soit très efficace, et nous regrettons que en République démocratique du Congo, le vétérinaire est un laissé pour compte. Donc, on doit assister à ce genre de choses. Ensuite, pour ce qui est de l'USA, nous sommes au courant que, en fait, dans les territoires de l'USA, pour le moment, depuis le mois de décembre jusqu'à présent, il y a vraiment des quantités de petits ruminants qui sont en train d'être décimés, surtout les chèvres, comme je l'ai dit au début. Bon, le seul remède, c'est la vaccination de masse. Et cette vaccination de masse doit intervenir. Il faut des moyens, et les moyens, c'est ce que j'ai dit. Il faut que le gouvernement provincial doit prendre ses responsabilités en relation avec le gouvernement central. Donc, il faut chercher des moyens. Si l'État n'a pas de moyens, il y a des coopérations multi et bilatérales qui peuvent intervenir. Tout cela, il faut solliciter l'appui pour qu'il y ait financement de toutes ces vaccinations. Dans un premier temps, ce qu'on demanderait à la population, c'est d'éviter les mouvements des animaux. Donc, je l'ai dit, le fait d'abattre et de vendre sur les marchés, d'envoyer la viande à un parent qui est très loin, tout cela, ça véhicule le virus. Donc, il faut cantonner les animaux là où il y a la maladie en train de sévir.
Voilà, Rachel nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Rachel.
Bonjour, c'est à l'invité.
On vous écoute.
La première question, c'est de savoir, est-ce que la bête a attrapé cette maladie, donc la peste, après être vaccinée et la bête guérie, est-ce qu'elle est toujours comestible ou comment? Et la deuxième question, c'est de savoir comment la transmission de cette maladie, ça se fait comment entre la bête et l'homme?
Docteur Florent.
Ok. Par rapport à la transmission, c'est par contact. Le virus est transmis par contact, donc il faut éviter les contacts entre les animaux sains et les animaux malades. C'est pour ça que nous disons qu'il faut cantonner les animaux qui sont atteints pour qu'ils n'aillent pas là où la maladie ne sévit pas et qu'ils puissent véhiculer la maladie. Bon, on a constaté aussi certaines contaminations à partir de l'eau, de boissons et des objets qui ont été en contact avec les animaux malades. Donc tout cela, il faut prendre des précautions à ce niveau-là. Mais on sait que le virus ne survit pas beaucoup en milieu extérieur par rapport à la température ambiante. Sa vie est très, très courte. En ce qui concerne la comestibilité de la viande, oui, après vaccination, donc l'animal n'a pas de problème, ou l'animal qui est guéri naturellement n'a plus de problème, il peut être consommé puisqu'il n'est plus malade.
Et je veux savoir, est-ce que la peste se transmet de l'animal à l'homme, peut se transmettre de l'animal à l'homme?
Non, je l'ai dit au début, pour le moment, la peste petit ruminant n'est pas une zoonose, c'est-à-dire une anthropozoonose qui peut se transmettre de l'animal à l'homme. Mais j'ai dit ceci, que le virus, c'est un microbe très compliqué. Et j'ai fait rappel de ce qui se passe pour la grippe aviaire. Donc au début, c'était une maladie qui attaquait seulement les oiseaux, et maintenant elle est en train de tuer les hommes. Donc les virus, son problème, c'est que c'est un microbe qui est en perpétuelle mutation. Sa mutation, il n'écrit pas garde, donc on peut observer un jour que la peste petit ruminant devienne une zoonose. Donc il faut éviter que la maladie continue à sévir. Parce qu'un jour, peut-être que ce virus peut muter et commencer à tuer les hommes. Mais pour le moment, c'est un microbe qui est cantonné au niveau des animaux et surtout des petits ruminants. Donc, il n'est pas encore très dangereux pour l'homme. Mais le fait qu'il tue les chèvres et les moutons, donc ça fait une perte énorme économique et du point de vue de la sécurité alimentaire, ça devient un grand problème.
Voilà, on retient que la peste des petits ruminants n'a pas de traitement. Le seul moyen de prévenir cette maladie, c'est la vaccination et éviter les déplacements, le mouvement des bêtes. Or, on n'a pas assez de vaccins. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des poches de résistance parce que la vaccination n'a pas été bien faite, les vaccins ne sont pas disponibles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits aujourd'hui pour avoir de vaccins pour, par exemple, attaquer la maladie dans le Bandundu ou elle sévit en ce moment?
Bon, disons qu'en fait, il y a dans un passé assez proche, il fallait importer les vaccins de l'étranger. Je sais que par exemple à l'Équateur, nous avons travaillé avec les vaccins qui viennent de la Jordanie. Mais aujourd'hui, le laboratoire vétérinaire de Kinshasa a les moyens de produire les vaccins. Il y a eu des experts qui ont été en formation et il y a l'équipement qui est, je crois, déjà arrivé. Ça, il faut poser la question au docteur Moulumba, qui est l'administrateur du labo de Kinshasa, pour donner des précisions là-dessus. Mais je sais que maintenant, la République démocratique du Congo est capable de produire les vaccins sur place. Donc, le gouvernement devait se pencher à ce niveau-là pour qu'il y ait production des vaccins et qu'on arrive à éradiquer cette maladie. Parce que, en fait, si on peut éradiquer cette maladie en République démocratique du Congo, il y aura un boom du côté de l'élevage des petits ruminants. Et ça, c'est une bonne chose pour notre économie.
Voilà, nous avons en ligne John Dembujimai. Bonjour.
Bonjour, Rudy.
On vous écoute.
Oui, ma préoccupation est la suivante. Parce que les bêtes atteintes ne sont pas comestibles. Mais il y a les propriétaires de ces bêtes qui, parce qu'ils ont besoin de l'argent pour gagner, ils ne peuvent pas tout perdre, qui vont tuer ces bêtes et les vendre à la population. Alors, je suis en train de demander quels sont les mécanismes à prendre pour protéger la sainte population qui ne sait pas que cette bête ou telle autre viande serait peut-être d'une bête contaminée. C'est ça vraiment ma préoccupation fondamentale.
D'accord. Docteur Florent.
Bon, je l'ai dit, le problème, c'est le dysfonctionnement du service vétérinaire. C'est le service vétérinaire qui donne l'autorisation de la consommation des aliments, surtout les aliments d'origine animale. Et même ce qui est abattu au niveau des abattoirs, etc., c'est les vétérinaires qui autorisent la consommation. Mais aujourd'hui, étant donné les dysfonctionnements du service vétérinaire, nous le dirons, moi je suis président national du syndicat des médecins vétérinaires, je le dis avec conviction que le service vétérinaire ne fonctionne pas bien. Et je l'ai dit au début, il faut que l'État se penche sur le fonctionnement du service vétérinaire pour protéger la population. Et ça, c'est tout à fait indiqué. Les élus du peuple et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut se pencher. Parce que tant que le service vétérinaire est dysfonctionnel, on est en train de tuer à petit feu le petit peuple, comme l'a dit notre ami John. Il consomme n'importe quoi et à la longue, il y a certaines maladies qui vont servir dans la population et qui peuvent décimer les enfants.
Voilà. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il y a un contrôle avant que la viande n'arrive au marché?
Bien sûr, il faut qu'il y ait un contrôle,
mais généralement, ce n'est pas le cas.
Oui. Fonctionne pas bien.
Voilà, généralement, ce n'est pas le cas. Et même Inaku, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux questions. La première est de savoir d'où viennent ces microbes qui causent la peste. Et la dernière question de savoir est, même la viande boucanée est-elle aussi transmettre cette maladie à l'homme ou quoi? Voilà mes deux préoccupations aujourd'hui, je vous remercie.
Non, l'invité a dit que la peste, jusque-là, elle n'est pas transmissible à l'homme. Alors, docteur Florent.
Alors, la deuxième question.
Voilà, la première question, d'où vient cette maladie, docteur Florent?
Bon, en fait, les origines, le réservoir naturel du virus de la peste pétiruminant n'est pas très bien connu. On avait pensé que ça pouvait être des ruminants sauvages, mais après investigation, on a retrouvé le virus seulement chez une antilope, la Dorcas, qui a révélé qu'il y avait présence de ces virus naturellement. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le réservoir naturel de ces virus, c'est surtout le petit ruminant lui-même. Et tant qu'il il peut conserver ces virus et avec certaines conditions, surtout les saisons, il y a moyen qu'il y ait éclatement de la maladie. Donc, ce sont des investigations qui sont encore en train d'être faites. On ne connaît pas très bien le réservoir naturel de ces virus.
Bien, le seul moyen pour prévenir, c'est la prévention. Pour prévenir cette maladie, c'est la vaccination. Or, il n'y a pas, les vaccins ne sont pas disponibles. Espérons que peut-être que les vaccins seront disponibles dans les jours à venir pour faire face à ces poches de résistance de la peste des petits ruminants dans le Bandundu.
J'ajouterais aussi qu'il faut savoir que la vache, on a retrouvé aussi les virus chez la vache, mais elle ne meurt pas de cette maladie, donc ça peut être aussi un réservoir. Et on a retrouvé aussi les virus chez les porcs, et ils n'enfuissent pas la maladie, donc ça peut être aussi un réservoir. Voilà, merci.
Bien, docteur Florent Gamouna, médecin vétérinaire et épidémiologiste, nous vous disons merci.
Moi, je vous dis merci aussi et meilleurs voeux à tous les auditeurs au CAPI. Et puis, j'en profite aussi pour rendre hommage à mon père qui nous a quittés au début de ce mois et paix à son âme.
Au CAPI.